Donc, séance du mardi 6 décembre 2022, troisième séance consacrée à la lecture de l'évolution créatrice de Bergson. Voilà, ouvrage paru en 1907. Avant de poursuivre notre lecture du premier chapitre que nous avons entamé, je crois qu'il est nécessaire de faire un point. Comme Bergson l'avait indiqué dans son introduction, son but, c'est de saisir la nature de la vie. La nature de la vie, évidemment, voilà un mot qui nous paraît très très vague, mais il entend par là, vous allez voir précisément, le courant évolutif, le progrès évolutif. Mais ça se précisera au fur et à mesure. Seulement, comme cette connaissance ne peut pas être atteinte directement, vous vous souvenez, il lui faut passer par un procédé indirect. Ce procédé indirect, c'est une analogie. Et grâce à cette analogie, il va, espère-t-il, pouvoir déterminer ce qu'il faut justement entendre par la vie et montrer en quoi elle est. Elle peut être considérée comme l'analogue de la vie intérieure de notre conscience. Alors justement, je voudrais repartir de cela. Donc vous vous souvenez que Bergson se demande au départ si les caractères de notre vie individuelle d'être conscient peuvent s'appliquer aux autres objets, aux autres existences, à commencer par les objets matériels, puis les corps vivants, et puis ensuite il espère pouvoir voir si c'est applicable à la vie. Donc, comme on l'a vu, il consacre les premières pages du premier chapitre à l'examen de notre vie intérieure, de notre durée intérieure. Et je rappelle que c'est la vie d'un mois dont la nature est de durée. Hein, c'est ce que nous avons vu lors de la dernière séance. Alors, ce mois, le mois, c'est le rapport à soi, hein. Enfin, c'est ce qu'on entend par moi, c'est ça, hein. C'est ce rapport à soi-même. Le moi n'est pas un être qui demeure le même, malgré les changements qui l'affectent. Ce n'est pas le substrat invariable auquel se rapportent les sensations, les sentiments, les pensées qui ne cessent de varier. Ce moi est fondamentalement changeant précisément parce que sa nature consiste dans la durée. Et nous avons vu, je le rappelle, les trois caractéristiques de la durée qui sont la continuité, l'irréversibilité, l'imprévisibilité. C'est-à-dire qu'un être qui dure comme notre moi n'est pas un être permanent, hein, doté de permanence. Ce n'est pas un être qui est déjà tout fait, hein, qui a une identité déjà toute faite. C'est un être qui ne cesse de se faire. Et personne n'hésite pas à employer le verbe créer. Exister, c'est se créer. Et je rappelle la formule très importante sur laquelle se termine toute cette réflexion sur la durée du moi. Je cite, on l'avait commenté, pour un être conscient, exister consiste à changer, changer à se mûrir à se créer indéfiniment soi-même. Alors, pour bien comprendre cela, j'insiste, il faut bien, et d'ailleurs ça va être nécessaire pour la suite, pour ça que je prends un peu de temps, il est absolument nécessaire de se rappeler ce qu'est la durée. Hein, vraiment, il faut bien comprendre ce qu'est la durée. Et je rappelle la formule utilisée par Bergson pour la définir. Je la cite. C'est le progrès continu du passé qui ronge l'avenir et qui gonfle en avançant. Formule apparemment très étrange, extrêmement étrange, qui souligne que la durée est à la fois continuité et création. Ce qui semble totalement se contredire, hein, à première vue. Continuité, pourquoi ? Parce que le passé se conserve dans le présent, du fait de la mémoire. Le passé se conserve sans cesse dans le présent et il ne cesse de s'accumuler sur lui-même. C'est pour ça qu'il grossit toujours plus. Ça, c'est la continuité. Et puis, création, parce que l'avenir surgit comme quelque chose de radicalement nouveau qui ne peut jamais être identique à ce qui a déjà été vécu. Et ce qui est intéressant, ce qu'il faut souligner, c'est que ce ne sont pas deux caractères séparés que la continuité et la création. Ces deux caractères sont liés l'un à l'autre. C'est-à-dire que il y a création parce qu'il y a continuité. C'est ça qu'il faut surtout saisir. La durée est créatrice parce que, justement, le passé ne cesse de s'accumuler sur lui-même et, selon la formule de Bergson, ronge ainsi l'avenir en avançant. Ainsi, donc, évidemment, aucune expérience de notre vie psychologique ne ressemble, n'est identique aux expériences précédentes. Chacune de nos expériences est originale, ça c'est clair. Et si vous avez bien compris tout cela, eh bien à ce moment-là, vous êtes préparé à comprendre ce que Bergson va dire de l'évolution. Voyez, vous allez être préparé à comprendre l'ouvrage du titre du livre de Bergson, Évolution créatrice. Évolution créatrice. Et avant de poursuivre donc notre lecture du premier chapitre, je voudrais tout de même éclairer le titre de l'ouvrage, en me servant de ce que nous avons déjà dit. Et puis ensuite, j'indiquerai la direction que va suivre évidemment Bergson. Alors, évolution créatrice, voilà ce qui semble être un oxymore. Ça nous apparaît comme un oxymore, parce qu'on ne voit pas a priori comment une évolution qui se caractérise par la continuité, qui rattache le futur au passé, le passé au présent, eh bien, pourrait être créatrice. A priori, on ne le voit pas. On ne voit pas en quoi une évolution pourrait faire naître quelque chose d'absolument nouveau. Hein ? On est d'accord. Et par ailleurs, nous sommes habitués à penser la création comme un commencement radical, que rien ne précède. Hein, quand nous pensons à la création, le premier sens du mot, c'est un sens théologique, c'est la création divine. Eh bien, la création, c'est un commencement radical. C'est le commencement du monde. Et c'est bien ainsi donc que se conçoit l'idée de création dans la théologie judéo-chrétienne. Hein. Ça n'est pas vrai des autres religions. Hein, d'autres religions. C'est vrai que des religions du livre. Chez les Grecs, chez les anciens Grecs, par exemple, il n'y a pas d'idée de création. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? On dit de Dieu qu'il a créé le monde. Créer, c'est tirer le monde du néant. On parle d'une création ex nihilo. Or, ce n'est pas de cette façon, bien sûr, que Bergson parle de création. On peut même dire qu'il récuse le sens théologique du terme de création. Pourquoi ? Parce que ce sens présuppose qu'en faisant advenir le monde à l'existence, Dieu l'a créé, déjà tout fait. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'au fond, l'acte créateur consiste à faire surgir le monde, mais une fois qu'il a surgi, il est ce qu'il est pour toujours. Il est donné, il est tout fait. Dieu, donc, l'a créé, et au fond, même tout ce qui va se produire dans le temps, tout ce qui va se produire dans l'histoire, eh bien, s'accomplira en vertu d'un plan divin. On dira ça aussi, éventuellement. Donc, selon cette conception théologique, par conséquent, la réalité est donnée, elle se déroule, si elle a une histoire, selon des lois établies par son créateur. Donc on voit ici tout ce qui sépare l'idée d'une évolution créatrice de l'idée théologique de création. Établir, vous voyez, comme le fait Bergson, établir une analogie entre cette évolution et la durée de notre vie intérieure, eh bien, c'est souligner que le réel n'est pas donné. Il n'est pas déjà tout fait. Il est ce qu'il se fait. Il est ce qu'il se fait selon un mouvement créateur qui lui est immanent. Et c'est ça qui est très très important. En fond, c'est l'idée essentielle de Bergson. La réalité, elle se fait. Elle se fait. Elle se fait à tous les niveaux, en nous et en dehors de nous. Ainsi, loin d'être une création ex nihilo, donc un commencement absolu, bah, la création, pour Bergson, c'est le surgissement d'une nouveauté absolue et imprévisible. Et c'est ça qu'il faut arriver à penser. C'est le surgissement d'une nouveauté absolue et imprévisible. Elle ne naît pas de rien. Ce n'est pas la création ex nihilo. Cette nouveauté ne naît pas de rien. Ce surgissement d'une nouveauté absolue ne naît pas de rien. Elle surgit par une impulsion qui vient du passé. Vous voyez ? Donc, ici, il y a continuité. Et c'est un surgissement que rien ne détermine par avance. C'est-à-dire que ce surgissement n'est pas prévisible. On ne peut pas déduire l'avenir qui surgit du passé de ce passé. Vous voyez ? Il y a quelque chose de plus qui se fait, vous voyez ? Quelque chose de nouveau, justement. C'est ça, la nouveauté. Et donc, on peut dire que personne, c'est le penseur de la nouveauté, si vous voulez, une nouveauté radicale. Donc, ce mouvement créateur de la durée, comme celui de l'évolution, eh bien, évidemment, c'est quelque chose de terriblement déconcertant pour notre intelligence. Notre intelligence a toutes les peines à concevoir justement ce mouvement créateur. L'intelligence ne peut pas penser le temps, elle ne peut pas penser la durée, elle ne peut pas l'appréhender. Ou elle la transforme en espace, c'est ce que nous avons vu. Alors, évidemment, comme on l'a vu, l'intelligence n'est vraiment satisfaite que lorsqu'elle appréhende de l'immobilité, vous vous souvenez ? Quand elle appréhende de l'immobilité, elle est satisfaite. Et donc, elle est incapable de saisir le mouvement et le changement. Ou, si vous voulez, pour elle, le mouvement, elle le réduit à une trajectoire, à la trajectoire d'un mobile. Vous voyez ? Dont on peut repérer les différentes positions dans l'espace, successives. Vous voyez, c'est comme ça que nous pensons par l'intelligence, le temps. Donc, l'intelligence ne saisit que des états successifs, qu'elle se représente comme des états distincts, semblables à des points qui coexistent simultanément sur la même ligne géométrique. Évidemment, et ça, je l'ai déjà dit, mais on reverra ça encore. L'intelligence a besoin de spatialiser le temps pour le maîtriser d'une certaine façon, pour se donner des repères afin d'agir efficacement. Et ce faisant, évidemment, elle enlève au temps sa véritable réalité qui consiste dans la durée. Le véritable temps, c'est celui de la durée, c'est celui que nous vivons. Et notre intelligence, elle ne peut pas appréhender la durée. Alors, à ce stade de notre lecture, nous ne pouvons pas encore savoir si la vie, c'est ce que personne appelle la vie, existe vraiment par elle-même, en tant que courant évolutif. Nous ne pouvons pas encore le savoir au début du livre. Quand on lit un livre, il faut être patient, il faut faire comme si, on sait, même si vous connaissez la fin, il faut faire comme si la fin n'était pas acquise. D'accord, bon, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc rien ne garantit encore qu'on va parvenir à déterminer qu'il y a un courant évolutif. On ne sait pas, on ne peut pas le savoir encore. À ce stade, donc, la vie, ce n'est peut-être qu'une abstraction, ce n'est peut-être qu'une rubrique générale dans laquelle on range les êtres vivants. Hein, c'est un peu comme ça qu'on en parle, souvent. Alors, si ce n'est que ça, évidemment, c'est pas grand-chose, c'est rien. Bon. Donc, avant de savoir si la vie existe vraiment par elle-même, si on peut être en mesure de le savoir, il faut d'abord voir ce qu'il en est des autres êtres, pour notre être conscient, pas pour notre... Je reprends ma formule. Il faut savoir ce qu'il en est des autres êtres que notre être conscient, à commencer par les objets matériels, ensuite les corps vivants, et ensuite seulement on pourra se demander si la notion de vie en général est légitime, si à cette notion correspond bel et bien une réalité. Alors, quant à la direction que Bergson va prendre dans les pages qui vont suivre, une fois que la notion de vie sera acquise, hein, bon, eh bien, il s'interrogera sur la méthode appropriée pour la connaître. Est-ce qu'on ne peut pas se fier à l'intelligence? Elle est incapable de la connaître. On ne peut pas se fier aux doctrines que l'intelligence met... aux conceptions que l'intelligence met à notre disposition, qui sont le mécanisme et la finalité qui inspirent les doctrines scientifiques, qui inspirent les théories scientifiques. Et au fond, toutes ces conceptions repoussent l'idée d'originalité, d'imprévisibilité. Toutes ces conceptions refusent d'accorder au temps une efficacité créatrice. En conséquence, pour parvenir à une véritable connaissance de la vie, eh bien, il faudra se mettre en quête d'une autre méthode. Laquelle? En tout cas, une méthode qui dépasse les exigences constitutives de la connaissance qui est fondée sur l'intelligence, que, il ne s'agit pas de mépriser, mais qui, de fait, ça se comprend et c'est tout à fait normal, ne peut pas saisir le mouvement créateur de l'évolution. Donc, c'est ça qu'il faudra faire. Et c'est à ça qu'on arrivera, sans doute, mais juste au début, à la fin de la séance. Donc nous n'en sommes pas encore là. Donc avant de savoir si la vie est un courant évolutif, analogue à notre durée intérieure, donc il faut se demander, comme je l'ai dit, si l'analogie peut s'appliquer aux objets matériels, puis aux êtres vivants. Alors on va commencer d'abord par l'objet matériel. Et là, vous avez avec vous le premier texte. Je lis ce texte de la ligne 1 à la ligne 3. Vous l'avez sous les yeux, la page 1. Vous avez des textes là. Hein, bon. Un objet matériel pris au hasard présente les caractères inverses de ceux que nous venons d'énumérer. Ou il reste ce qu'il est, ou... s'il change sous l'influence d'une force extérieure, nous nous représentons ce changement comme un déplacement de partie qui, elle, ne change pas. Alors, avançons doucement. D'abord, première question, en quel sens la matière présente-t-elle des caractères inverses de ceux de la durée? Je rappelle que la durée s'éprouve comme un changement indivisible et continu. À l'inverse, justement, le changement au sein de la matière s'opère par déplacement de partie, comme le dit Bergson. Par déplacement de partie. Ce qui signifie que la matière... ici, admet la division, peut décomposer un objet en parties, là où, au contraire, la durée est absolument simple et indivisible. La matière se divise, pas la durée. Vous voyez ? Et si, comme l'indique plus loin Bergson, ces caractères de la matière sont l'expression en elle d'une tendance à se laisser diviser. Alors, je ne commenterai pas ce point, parce que ça, c'est quelque chose qui sera repris plus tard. Donc s'il y a déjà bien dans la matière une tendance à se laisser diviser, fragmenter, ces caractères de la matière relèvent surtout d'un travail de division et de fragmentation que notre intelligence opère sur elle. Alors, je vous invite à lire les lignes 3 à 7. Donc, la suite. Si ces parties s'avisaient de changer, nous les fragmenterions à leur tour. Nous descendrons ainsi jusqu'aux molécules dont les fragments sont faits, jusqu'aux atomes constitutifs des molécules, jusqu'au corpuscule générateur des atomes, jusqu'à l'impondérable, au sein duquel le corpuscule se formerait par un simple tourbillonnement. Nous pousserons enfin la division ou l'analyse aussi loin qu'il le faudra, mais nous ne nous arrêterons que devant l'immuable. Alors, vous voyez, on reconnaît là le travail de l'intelligence. L'intelligence, elle opère par division, par analyse. Elle décompose un tout en ses éléments. C'est ça qu'elle fait, pour le comprendre, pour le reconstituer en pensée. Elle décompose l'objet matériel et elle pousse l'analyse jusqu'à la détermination d'éléments ultimes, d'éléments discrets, qui ne peuvent pas être à leur tour divisés et qui sont immuables. C'est-à-dire qu'au fond, l'intelligence, si vous voulez, pousse l'analyse jusqu'à des éléments qui sont des éléments ultimes, hein, et qui sont immuables. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir ainsi, par recomposition, elle va pouvoir effectivement éclairer l'identité de l'objet. L'objet, c'est un composé d'éléments immuables. Et même les changements de l'objet pourront s'expliquer, au fond, par la combinaison de ces éléments. Alors, vous voyez, comme on l'a déjà vu, hein, je reviens là-dessus, l'intelligence, rappelez-vous, ne trouve satisfaction que lorsqu'elle atteint de l'immobile, de l'immuable. Hein. Et à partir des éléments immuables, elle pourra expliquer donc l'état de l'objet, la configuration de l'objet, comme je l'ai dit, c'est-à-dire comme une composition d'éléments, et puis les changements d'état de cet objet, eh bien, seront tout simplement une autre composition des éléments. Vous voyez ? Mais au fond, la base, c'est l'élément. Hein, on part de l'élément pour... l'intelligence part de l'élément pour comprendre, au fond, la composition de l'objet. C'est pour ça qu'il dit, il parle de système. Un système, c'est un tout que l'on peut décomposer en ses parties, en ses éléments. Bon, ben, l'objet, on va le traiter comme un système que l'on peut, en fait, comprendre à la lumière des éléments qui le constituent. Alors, le changement, dans cette optique, le changement étant conçu comme un déplacement de parties, comme un autre arrangement de ces parties, comme un autre arrangement de ces éléments constitutifs, eh bien, un objet matériel peut toujours retrouver un état qu'il occupait auparavant. Il peut, hein, ici, il suffit de redonner aux parties, aux éléments, la disposition qu'elles avaient auparavant. Et vous retrouvez l'état antérieur. C'est-à-dire, au fond, si j'ai bien compris, c'est ce que dit ici Bergson, ligne 8-9, quand une partie a quitté sa position, rien ne l'empêche de la reprendre. Bon. L'objet matériel admet tout à fait ainsi la répétition de ces états. Hein, il admet la répétition de ces états, c'est-à-dire que, au fond, ça signifie au fond que le changement d'un objet matériel, c'est un changement superficiel, hein, qui est réversible, qui est tout à fait réversible. Et ça signifie donc aussi qu'un objet matériel ne vieillit pas, il n'a pas d'histoire. Il n'a pas d'histoire parce que les changements qu'il subit ne sont pas des transformations profondes de son être. Hein ? Ce ne sont pas des transformations profondes, ce sont des déplacements de parties. Hein ? qui se mesure. Et comme le dit Bergson, regardez bien la belle formule qui se trouve ligne 19, hein, parlant des objets matériels, le temps ne mord pas sur eux. Le temps ne mord pas sur eux. C'est-à-dire le temps, la durée, n'a pas d'efficacité sur eux. Elle ne les transforme pas intérieurement. Vous voyez ? Et ça veut dire aussi donc que tous les changements d'un objet sont prévisibles. Puisque ce sont des arrangements de parties, on peut les prévoir. Et d'ailleurs ici, Bergson reprend la fiction d'une intelligence surhumaine qu'il avait déjà utilisée et qu'il utilisera encore plusieurs fois. La fiction d'une intelligence surhumaine qui connaîtrait parfaitement la disposition des parties d'un objet et qui pourrait à partir de là prévoir toutes ses configurations à venir. Je lis le passage. Ligne 14 à 17. Une intelligence surhumaine calculerait pour n'importe quel moment du temps la position de n'importe quel point du système dans l'espace, et comme il n'y a rien de plus dans la forme du tout que la disposition des parties, eh bien les formes futures du système sont théoriquement visibles dans la configuration présente. Voilà, pas besoin, puisque le temps ne change pas profondément l'objet, eh bien, on peut par conséquent, et puisque tout n'est que déplacement de partie, tous les déplacements possibles et imaginables sont prévisibles. Il suffit de maîtriser l'ensemble des éléments. Donc, le temps, dans cette conception, le temps, pour la matière, le temps n'apporte rien. Le futur n'est rien de plus que le présent. Et on peut parfaitement déduire un état futur des états antérieurs. La prévisibilité parfaite des changements d'état d'un objet matériel s'oppose donc de manière radicale à l'imprévisibilité foncière qui caractérise chacun des moments de l'existence d'un être comme nous qui dure. Souvenez-vous, qu'est-ce qui constitue notre durée d'être conscient, hein, qu'est-ce qui la caractérise? C'est l'imprévisibilité, l'originalité de tous les moments de son existence. Et bien ici, vous voyez, cette imprévisibilité foncière de notre propre durée intérieure s'oppose radicalement à la parfaite prévisibilité des changements effectivement d'un objet matériel. Donc le monde des objets matériels apparaît donc comme le domaine où s'applique par excellence le déterminisme. Vous voyez, c'est ce principe selon lequel les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Vous voyez ? Et donc ce monde matériel, ce monde des objets matériels, apparaît comme le domaine où tout changement est prévisible et trouve une parfaite explication à partir des états antérieurs de l'objet. Mais, ça je pense que c'est pas trop compliqué, mais il faut se rappeler de ce point. Rien ne dit cependant que l'univers matériel, dans sa totalité, se réduise au déterminisme. C'est ça que nous allons maintenant devoir examiner. Rien ne dit, je répète, que l'univers matériel dans sa totalité se réduise au déterminisme et soit donc entièrement prévisible. Ce serait oublier que la science, c'est-à-dire la chimie, la physique, la science ne traite pas de la totalité de l'univers matériel. La science traite seulement de systèmes matériels qu'elle isole et abstrait par conséquent de cette totalité. Abstraire, ça veut dire enlever, ôter de la totalité, extraire en quelque sorte ces systèmes de la totalité de l'univers. Donc voilà, c'est en fait qu'est-ce que fait la science ? Elle isole un système, Donc, elle étudie, au fond, ce système dans ses composantes, hein, puisque le système, c'est un tout décomposable en parties, et puis elle examine les relations qui existent entre les parties. Vous voyez, c'est comme ça qu'elle procède. En isolant, bien sûr, ces objets, donc en clôturant ces systèmes, la science les soustrait aux influences extérieures par lesquelles l'objet se trouve rattaché au reste de l'univers. Parce qu'en fait, si vous voulez, je vais prendre un exemple hein, pour que ce soit plus simple, pour illustrer mon propos. Le chimiste, prenez le chimiste, l'exemple du chimiste. Quand il étudie l'eau, c'est pas l'eau de la rivière, c'est pas l'eau du robinet qui contient du calcaire et toutes sortes de produits, du nitrate, tout ce que vous voulez. Mais l'eau qu'il étudie, c'est un composé d'hydrogène et d'oxygène qui n'existe qu'en laboratoire. Après avoir éliminé tous les facteurs extérieurs qui pouvaient perturber en quelque sorte l'examen de cet objet. C'est un objet purifié, en fait, qu'il étudie, un objet idéal. Ben, c'est ça, un système d'objets, hein, c'est un système matériel. La science, si vous voulez, elle n'étudie, elle fait en sorte d'isoler, en quelque sorte, l'objet des influences perturbatrices qui pourraient, en quelque sorte, empêcher son étude, hein, et elle l'étudie à partir des relations internes, finalement, des parties qui le composent, pour comprendre leur interaction. Eh bien, vous voyez, c'est ça, au fond, le déterminisme pour la science, c'est une exigence de méthode. Hein, c'est une exigence de méthode qui vaut seulement pour les systèmes isolés. Mais on ne peut pas prétendre que le déterminisme vaut pour la réalité tout entière. On ne peut pas le prétendre. C'est-à-dire que en isolant des systèmes, hein, comme elle le fait, hein, en les soumettant à son exigence déterministe, la science, en fait, réduit le temps à une variable indifférente qu'on peut figurer dans l'espace. L'avant et l'après, ce ne sont pas, pour la science, des moments qualitativement différents, ce sont les étapes d'un processus que l'on peut se représenter, encore une fois, sur une ligne géométrique par des points juxtaposés, T1, T2, T3, etc. Au fond, l'avant et l'après, ce sont des repères simultanés, vous voyez, pour décrire, au fond, un processus. Mais la science, si vous voulez, se débrouille pour éliminer la durée. Le temps qu'elle utilise, c'est le temps, c'est un temps mesurable, c'est une grandeur mesurable. C'est une variable, si vous voulez, mais le temps... du physicien n'est pas le temps que nous vivons. Vous comprenez bien. Et ce n'est pas un temps qui transforme en profondeur l'objet. Hein? Bon. Donc, et voilà justement ce que va montrer maintenant personne, c'est que l'idée d'un temps purement mesurable, comme celui du physicien, se heurte à l'expérience. Il se heurte parfois à l'expérience. Je cite ici cette formule qui se trouve ligne 20. Regardez bien. Pourtant, la succession est un fait incontestable, même dans le monde matériel. Même dans le monde matériel. Et il va prendre ici, pour le montrer, un exemple très simple, qui lui était tout à fait personnel. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il faisait une conférence, il buvait un verre d'eau sucrée. Bon, il va falloir que je fasse ça. Donc, il trempe, il met un morceau de sucre dans l'eau, il plonge dans ce morceau de sucre dans un verre d'eau, et il doit bien observer qu'il faut attendre. Il faut attendre un certain temps pour que cette dissolution ait lieu, pour que le sucre ait vraiment fondu. Je cite ligne 23. « Si je veux me préparer un verre d'eau sucrée, j'ai beau faire, je dois attendre que le sucre fonde. » Pour le physicien, temps-là n'existe pas. Enfin, il n'en tient pas compte. Le temps de l'attente, il n'en tient pas compte. Le temps, pour le physicien, ce n'est que le déploiement du processus de dissolution du sucre, dont il se représente chacune des étapes, encore une fois, par des points juxtaposés sur une ligne. C'est-à-dire qu'au fond, le physicien se donne en une fois et simultanément, dans la pensée, les étapes successives de cette dissolution. Il se la donne en pensée, hein, en même temps. Hein. Et pour exprimer donc, la manière dont le physicien se représente le temps du processus de dissolution, eh bien, Bergson utilise une métaphore qui est la métaphore de l'éventail. Regardez la ligne 22. Alors, si donc je reprends mon exemple. Si je veux me préparer un verre d'eau sucrée, j'ai beau faire, je dois attendre que le sucre fonde. Ce petit fait est gros d'enseignement. Car le temps... Excusez-moi, c'est pas là. Si, c'est là. Car le temps que j'ai à attendre n'est plus ce temps mathématique qui s'appliquerait aussi bien le long de l'histoire entière du monde matériel, lors même qu'elle serait étalée tout un coup dans l'espace. Alors non, c'est plus haut, effectivement. Oui, c'est ça, ligne 21. Au fond, pour le physicien, hein, l'histoire passée, présente et future de chacun des systèmes isolés serait dépliable tout d'un coup en éventail. Voilà, c'est l'image, la métaphore de l'éventail. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'au fond, pour le physicien, tout se passe comme si la dissolution du sucre dans l'eau se déroulait comme un éventail qu'on déplie tout d'un coup. Et bon, c'est une image approximative, bien sûr. Hein. C'est-à-dire que le temps, du point de vue de cette métaphore, le temps n'est rien. Il n'est rien, finalement. Hein, il ne produit rien, il ne fait que déployer hein, ce qui est déjà là. Mais, évidemment, ce temps, ce n'est que le temps abstrait. Ce n'est pas le temps réel de la durée. Ce temps réel de la durée qui fait que, précisément, le réel ne se donne jamais en une seule fois. Il n'y a que pour le physicien que le réel se donne en une seule fois. Hein. Pour la durée, pour nous, hein. Pour nous, le temps réel de la durée ne se donne jamais en une seule fois, mais toujours successivement, et selon une succession incompressible. Il ne se déploie pas tout d'un coup, en éventail. C'est le temps que j'ai à attendre que le sucre fonde. Et d'ailleurs, comme on le dit ordinairement, hein, expression populaire, la dissolution du sucre dans l'eau, ça prend du temps. Ça prend du temps, vous voyez, c'est pas pareil. Alors, je lis encore une fois Bergson, ligne 25-27, regardez bien, ligne 25-27. Ce temps, excusez-moi, oui, ce temps, coïncide avec mon impatience. Hein, c'est ligne 25. Il coïncide. Ce temps, c'est ce temps, coïncide avec mon impatience, c'est-à-dire avec une certaine portion de ma durée à moi, qui n'est pas allongeable ni rétrécissable à volonté. Ce n'est plus du pensé, c'est du vécu. Alors, je peux déplier à volonté un éventail, je peux le rétrécir, je peux l'allonger, mais je ne peux pas allonger, rétrécir à volonté le temps réel. Ah, voilà, c'est aussi bête que ça. Alors ici, bien sûr, attention. On pourrait faire une objection à personne, on pourrait lui objecter que ce temps où j'attends la dissolution du sucre, ce n'est jamais après tout que le temps subjectif de mon impatience et que le cours de la nature n'a rien à voir avec elle. Hein, c'est le type d'objection qu'on pourrait opposer à ce que dit Bergson. Après tout, ça, la patience, c'est votre temps subjectif, mais ça ne concerne pas le temps réel des choses, ça ne concerne pas le cours de la nature. Eh bien, à cela, si on regarde bien le texte de Bergson, on peut dire qu'il répond que, certes, mon impatience est un phénomène subjectif, psychologique, mais ça va au-delà. Il s'agit d'un phénomène qui va au-delà de ma propre psychologie. Parce que la durée qui se découvre à travers mon impatience, ce n'est pas seulement le temps de ma conscience, c'est aussi le temps de l'univers. C'est-à-dire que cette impatience que je vis, elle me fait comprendre que la réalité dure en dehors de moi. La réalité dure en dehors de moi. Et que tout dans la réalité n'est pas donné d'un seul coup. C'est ça que ça me fait comprendre, si vous voulez. Ce n'est pas simplement un phénomène subjectif. C'est un phénomène subjectif qui me met en contact d'une réalité qui dure. Qui dure. Et je ne fais pas ce que je veux. Vous voyez ? Je n'en fais pas ce que je veux. Hein ? Donc, la conscience d'où surgit l'expérience du temps, vous vous souvenez ? Elle révélait déjà, c'est ce qu'on avait vu, elle révélait que le temps était l'étoffe de notre être, hein, c'est ce que nous avions dit. Eh bien, la conscience d'où surgit l'expérience du temps révèle aussi que le temps est l'étoffe de l'univers matériel tout entier. Ce n'est pas simplement et seulement l'étoffe de mon être. Hein, la durée ne constitue pas seulement ma subjectivité, hein, mon être intérieur, ça constitue aussi le réel extérieur. Vous voyez, c'est cette expérience-là que veut faire comprendre ici Bergson. Alors évidemment, là encore, on pourrait toujours dire que c'est vrai, le verre d'eau plus le sucre plus le processus de dissolution, c'est un système clos. C'est un système matériel clos, découpé au sein de l'univers matériel, découpé par nos sens et notre intelligence. Bon. Et grâce à cet isolement, la science peut l'étudier selon les exigences de notre intelligence. C'est vrai, mais, comme le montre Bergson, ce système ne peut jamais être complètement isolé. On ne peut jamais complètement isoler un système. C'est vrai que la science abstrait, isole des systèmes, elle les abstrait du tout de la matière, mais elle n'y arrive jamais complètement. Pourquoi ? Parce que en tant que ce système se rattache à la totalité de l'univers matériel et se trouve en interaction avec lui, eh bien, il ne peut pas échapper à la durée. C'est-à-dire que toutes les choses, même si vous voulez les isoler, elles se rattachent à l'univers dans sa totalité et par là, elles sont affectées par la durée. Elles n'échappent pas à la durée. Alors, voilà ce que veut montrer Bergson. Alors qu'on ne se méprenne pas sur son propos, il ne récuse pas le temps mesurable de la science, il ne récuse pas le temps de la physique. Il en limite seulement la portée. Ce n'est pas la même chose. Hein. Le temps de la physique, le temps mesurable des physiciens, il est valable seulement pour des systèmes isolés, hein, qui sont découpés par l'intelligence. Mais ce temps de la physique n'est pas valable concernant la totalité de l'univers. Et ici, il faut bien comprendre que la démarche d'abstraction de la science est tout à fait légitime. Hein. Abstraire, c'est extraire. Hein. C'est sélectionner, c'est isoler. Bon. Elle est tout à fait légitime, cette démarche abstractive de la science. Mais il ne faut jamais oublier, il faut toujours avoir conscience qu'elle n'est qu'une abstraction. Qu'elle n'est qu'une abstraction. C'est-à-dire que quand le physicien prétend étendre sa conception du temps à l'univers tout entier, en le considérant, par exemple, comme une sorte de mécanique universelle, vous voyez, eh bien, il n'est plus un physicien. Il devient un métaphysicien. C'est-à-dire qu'il se prononce sur la réalité. Il se prononce sur la nature de la réalité. Il prétend que la réalité est entièrement déterminée, que le temps de la physique, effectivement, s'applique entièrement à elle, etc. Et ça, effectivement, il n'est pas autorisé à le faire. Vous voyez, sa démarche est tout à fait légitime concernant, je répète, des systèmes isolés, mais il ne peut pas prétendre que l'univers tout entier, effectivement, est soumis à ce temps mesurable. Bon. Donc, que révèle, en définitive, cette simple expérience du sucre qui fond dans un verre d'eau? Eh bien, que l'univers matériel manifeste une durée irréductible. Je cite Bergson, ligne 45 à 47, en bas. L'univers dure. Plus nous approfondirons la nature du temps, plus nous comprendrons que durée signifie invention, création de forme, élaboration continue de l'absolument nouveau. Les systèmes délimités par la science ne durent que parce qu'ils sont indissolublement liés au reste de l'univers. Vous voyez, ça résume bien. Vous voyez, ça résume bien. Donc l'univers dure dans sa totalité. Et si même les systèmes isolés par la science, délimités par la science, durent, c'est parce qu'ils participent finalement de cette totalité. Donc on ne peut pas totalement les soustraire au temps, à la durée. Après les objets matériels, après la totalité de l'univers matériel, il faut aborder maintenant les corps vivants. Alors, texte 2, vous voyez la question, tourne la page. Ligne 6, la question est très simple. Le corps vivant, hein, c'est en caractère gras, ligne 6, le corps vivant, est-il un corps comme les autres? Voilà la question. Est-ce qu'il est identique à l'objet matériel? Alors, soyons clairs. Et là, il ne faut pas se méprendre. Ce n'est pas un corps à part. En un sens, oui, c'est un corps comme les autres. En un sens, oui. Au sens, tout simplement, où il est soumis, comme les autres corps, aux lois de la physique et de la chimie. Et ça, il n'est pas question, vous voyez, pour personne, de le nier. Et les sciences ont beaucoup de choses à dire là-dessus. Bien sûr. Hein ? Donc, les mêmes lois que sont les lois de la physique et de la chimie s'appliquent aussi bien à la matière brute qu'à la matière vivante. Seulement, les corps vivants diffèrent des objets matériels, de ces systèmes hein, dont on a parlé, en étant, je cite, isolés et clos par la nature elle-même. C'est-à-dire que les corps vivants, ce sont des systèmes qui sont clos et isolés par la nature elle-même. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez les systèmes artificiellement clos et isolés par notre activité, par la science. Ça, ce sont les objets matériels. Ce sont des systèmes clos et isolés artificiellement. Et de l'autre côté, vous avez des systèmes naturellement clos et isolés. Ce sont les corps vivants. Vous voyez la distinction ? Toute la question sera de savoir si on peut réduire un corps vivant, au fond, à une sorte d'objet matériel, à une machine, par exemple. Hein ? Non, mais une question qui va se poser. Alors, le corps vivant est un système qu'on appelle un organisme, justement, parce qu'il est un tout. Hein, c'est un tout. Un système, c'est un tout. C'est-à-dire qu'il se compose deux parties, hein, je cite ici Bergson, le système qu'est le corps vivant se compose de parties hétérogènes qui se complètent les unes les autres, et vous savez que ces parties, ben, ce sont les organes. Alors pour désigner ce tout autonome, on parle d'individu, et l'individualité, ici, va être la première caractéristique du corps vivant. Première caractéristique du corps vivant, l'individualité. Seulement, les choses ne sont pas simples. Il ne s'agit pas d'une individualité parfaite. qui serait entièrement clos sur elle-même. L'individualité du corps vivant n'est pas une réalité toute faite. Ce n'est pas une réalité toute faite, comme l'écrit Bergson. Alors c'est le texte 2, ligne 20-21. Hein, regardez bien, c'est en caractère gras. Or, les propriétés vitales, dit-il, ne sont jamais entièrement réalisées, mais toujours en voie de réalisation. Ce sont moins des états que des tendances. Vous voyez, je reprends. Les propriétés vitales ne sont jamais entièrement réalisées, mais toujours en voie de réalisation. Ce sont moins des états que des tendances. Bon, en clair, le corps vivant n'est jamais un individu réalisé. Fini. Parfait. Il est toujours en train de se réaliser. Il a, comme dit Bergson, une tendance à s'individuer. Hein, c'est l'expression qu'il emploie. Une tendance à s'individuer. Et cette tendance, comme il le montre, peut être contrariée par une autre tendance, en lui, qui empêche l'individualité organique de se clore sur elle-même. Quelle est cette autre tendance ? C'est la tendance à se reproduire. Il y a, vous voyez, il y a une tendance à s'individuer qui nous constitue, et à l'intérieur de nous, il y a une autre tendance, une tendance opposée, qui est une tendance à se reproduire. Le corps vivant serait une individualité fermée si aucune partie détachée de l'organisme ne pouvait vivre séparément. S'il en était ainsi, la reproduction serait impossible. Or, vous savez bien, la reproduction suppose la vie du spermatozoïde en dehors de l'organisme d'origine. Vous voyez ? Donc, vous voyez, exemple très simple qui montre que l'individu ne peut pas se clore sur lui-même. Il y a des parties de lui qui peuvent vivre de manière détachée et contribuer effectivement à la reproduction. Donc, il suffit en tout cas de réfléchir sur ces simples données pour comprendre qu'on ne peut pas raisonner sur les choses de la vie comme sur les modalités de la matière brute. Je cite Bergson ici. On ne peut pas raisonner sur les choses de la vie comme sur les modalités de la matière brute. C'est la ligne 32 qui se trouve à la fin de cet extrait. Mais trop souvent, on raisonne sur les choses de la vie comme sur les modalités de la matière brute. Et bien, ça, ce n'est pas possible. Alors là, encore une fois, et puisqu'il parle de tendance, il parle de durée, puisqu'il parle d'un être qui tend à s'individuer, on est dans quelque chose, dans un processus qui est en train de se faire, donc on est dans la durée. Eh bien, vous voyez que la durée constitutive des êtres vivants, eh bien, va encore une fois ici s'avérer extrêmement déconcertante pour notre intelligence. Difficile pour l'intelligence de concevoir une individualité imparfaite. Difficile de concevoir une individualité dont la propriété essentielle est de tendre à l'individualité. Très difficile. Et en laquelle la tendance à la reproduction est une tendance opposée. C'est très déconcertant pour l'intelligence. L'intelligence, elle est très à l'aise avec des objets bien définis. Mais là, vous avez des objets, une espèce d'inachevés. Alors, je cite Bergson ici, encore une fois, ligne 27-29. Ligne 27-29, toujours le même extrait. L'individualité loge donc son ennemi chez elle, le besoin même qu'elle éprouve de se perpétuer dans le temps, la condamne à n'être jamais complète dans l'espace. Très bizarre. Donc cette individualité toujours en train de se faire, qui n'est jamais achevée, eh bien, elle permet d'établir justement une analogie entre son mode d'existence et puis celui d'un être conscient qui se constitue lui-même perpétuellement en durant, dans la durée. Vous voyez, là, on peut faire une analogie, vous voyez. Alors, établir une analogie, ça ne veut pas dire que c'est identique, bien sûr. Mais il y a une propriété commune. Et puis aussi, on peut faire une analogie avec l'univers entier. Dans les trois cas, nous avons affaire à de la durée. Dans les trois cas, nous avons affaire à des touts, à des touts qui ne cessent de se transformer sous l'action de la durée. Et regardez, vous passez maintenant au texte numéro 3, ligne 6, ligne 6 à 9. Je lis. Comme l'univers dans son ensemble, comme chaque être conscient pris à part, l'organisme qui vit et chose qui dure, son passé se prolonge tout entier dans son présent, il demeure actuel et agissant, comprendrait-on autrement qu'il traversa des phases bien réglées, qu'il changea d'âge, enfin qu'il eût une histoire. Alors, il nous arrive, parce que nous allons maintenant montrer qu'il y a une deuxième propriété constitutive du vivant, ça va être le vieillissement. Le vieillissement est essentiel. Il nous arrive de dire que tel endroit, tel décor a bien vieilli. Hein ? Mais c'est une manière de parler. C'est une manière de parler parce qu'une chose, un lieu, peut sans doute subir un phénomène d'usure. Hein, une chose subit un phénomène d'usure, mais on ne peut pas parler de vieillissement. Il y a une altération, ce n'est pas un vieillissement. Une maison n'a pas d'histoire. Elle a une histoire pour nous. Ce n'est pas la même chose. Mais il faut faire attention ici à ne pas être victime des métaphores. Hein. Seul un corps vivant vieillit. Et en toute rigueur, d'ailleurs, je ne peux parler du vieillissement que pour mon corps. Et c'est seulement d'ailleurs par métaphore que je dis que ma personne consciente vieillit. Parce que ma personne consciente, elle fonctionne pas, elle n'est pas de même nature que mon corps vivant. Donc c'est par métaphore que je dis que je vieillis en tant que personne. C'est pas la même chose. Donc le vieillissement est une propriété caractéristique des corps vivants qui leur est absolument propre. Et il y a pour tout être vivant une nécessité du vieillissement qui manifeste tout simplement qu'il est essentiellement un être qui dure. C'est parce que nous sommes des êtres qui durons que nous vieillissons. Parce que le vieillissement, c'est la marque spécifique de la durée laissée sur le corps vivant. C'est la marque spécifique de la durée sur le corps vivant. C'est ça la durée. C'est ça le vieillissement, pardon. C'est un effet de la durée, en fait. Et plus l'organisme est individualisé, plus ce vieillissement est manifeste. Alors, Bergson remarque, Bergson indique que le vieillissement se remarque peu dans les organismes unicellulaires, comme l'infusoir, par exemple. Et il se manifeste, par contre, beaucoup en l'homme, beaucoup plus en l'homme, qui est un être vivant, beaucoup plus complexe. Mais en tout état de cause, le processus de vieillissement n'est pas uniforme. Et à son propos, d'ailleurs, on peut parler de variation de l'individualité selon les espèces. Alors, comme le dit Bergson, toujours dans le texte numéro 3, ligne 19-20, il n'existe pas de loi biologique universelle qui s'applique telle quelle automatiquement à n'importe quel vivant. Il n'y a que des directions où la vie lance les espèces en général. Donc il n'y a pas de loi biologique universelle, ça passe. Il y a mille et une façons de vieillir selon les espèces, et chaque espèce suit sa propre ligne d'évolution. Alors d'ailleurs, il y a des exemples intéressants. Parfois, le vieillissement n'est pas apparent. Et Bergson donne l'exemple de l'arbre. L'arbre. Si on considère un arbre, on peut dire à la fois qu'il vieillit et qu'il ne vieillit pas. Il vieillit, ne serait-ce que par ses feuilles et par l'intérieur du tronc. Mais il ne vieillit pas, comme dit Bergson, ligne 23 à 25. Il ne vieillit pas. C'est texte numéro 3. Hein. Il ne vieillit pas. Donc c'est la page 3. La page 3, oui, c'est ça. Toujours concernant l'arbre. Voilà, on aura, c'est ligne 22, allez. On n'aura pas de peine à nous montrer qu'un arbre ne vieillit pas, puisque ses rameaux terminaux sont toujours aussi jeunes, toujours aussi capables d'engendrer par bouture des arbres nouveaux. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez remarquable, si on considère l'arbre. Il y a à la fois une sorte d'entrecroisement, il y a un entrecroisement du vieillissement et de l'engendrement, qui montre tout simplement que le vivant peut prendre des directions tout à fait originales. Enfin, quoi qu'il en soit, et c'est ça qu'il faut surtout retenir, ligne 26-27, partout où quelque chose vit, il y a ouvert quelque part un registre où le temps s'inscrit. Vous notez bien la formule, hein ? Partout où quelque chose vit, il y a ouvert quelque part un registre où le temps s'inscrit. Et, c'est-à-dire, c'est ça le vieillissement, c'est le registre où le temps s'inscrit. Alors, là encore, l'intelligence est déroutée. Il est difficile pour elle de concevoir le vieillissement comme la marque spécifique de la durée sur le vivant. C'est-à-dire comme le signe même de la prolongation du passé dans le présent. Hein, c'est très difficile de concevoir ça pour elle. Et d'ailleurs, elle répugne, c'est ce que dit Bergson, elle répugne à admettre l'action de la durée sur les corps vivants. Et cette répugnance s'exprime en nous comme un instinct que Bergson nomme un instinct qu'il appelle l'instinct mécanistique de l'esprit, excusez-moi. Comme je saigne, je suis un peu embêté. Oui, mais c'est normal, je suis allé chez le dentiste. J'ai été rapide, il m'a arraché la dent. Donc, j'espère que ça ne se voit pas trop. Tu peux, bon, enfin bon, c'est pas grave, je vous préviens. C'est pas grave. Donc, voilà, là, bon, il parle d'instinct mécanistique de l'esprit. Alors, tout simplement, ça veut dire, au fond, si vous voulez, nous répugnons effectivement à penser en termes de durée. C'est quelque chose que nous repoussons. C'est pour ça que nous n'arrivons pas à penser la question du vivant, parce que nous avons toujours besoin de ramener en quelque sorte le vivant à du mécanique. L'instinct, c'est quelque chose d'impératif. Il commande ce que nous devons faire, ce que nous devons penser. Et regardez bien, par exemple, ce que dit Bergson, ligne 36 ou 37, si vous voulez, du même texte. Regardez l'expression, le verbe « il faut ». « Il faut », c'est en italique, hein, qui traduit le caractère impératif de l'instinct mécanistique de l'esprit. « Il faut que le changement se réduise à un arrangement ou à un dérangement de partie, que l'irréversibilité du temps soit une apparence relative à notre ignorance, que l'impossibilité du retour en arrière ne soit que l'impuissance de l'homme à remettre les choses en place. » Voilà ce que l'impératif mécanistique dicte. Il refuse en tout cas d'envisager le vieillissement comme un registre où le temps s'inscrit, hein, pour reprendre la métaphore de Bergson. Car il ne se représente pas le temps comme quelque chose d'irréversible. Hein, l'instinct mécanistique de l'esprit ne se représente pas le temps comme quelque chose d'irréversible, mais au contraire de réversible. C'est-à-dire qu'au fond, on peut toujours retourner en arrière. On peut toujours retourner en arrière. On peut, par exemple, empêcher le vieillissement, éventuellement l'annuler, si on maîtrise les facteurs chimiques qui expliquent le vieillissement. Vous voyez, l'idée, c'est ça. Si on était, bon, évidemment, on n'est pas en mesure de le faire, mais si on connaissait, au fond, tous les facteurs qui déterminent le vieillissement, ben, on pourrait agir dessus, et puis comme ça, on pourrait rajeunir. Extraordinaire. Et d'ailleurs, les théories du vieillissement en vigueur à l'époque de Bergson, d'ailleurs il y fait allusion, appréhendent le vieillissement comme un processus quantitatif et réversible. Alors, il y a des théories ici qui s'opposent, mais elles partagent, au fond, sur le fond, la même idée. Le vieillissement, c'est un phénomène quantitatif et réversible. Alors, il y a des théories qui vous racontent que le vieillissement s'explique par la perte de certaines substances dans le corps, et puis d'autres qui, au contraire, vous explique que le vieillissement s'explique par le gain d'un certain nombre de substances. Bon, il y a une divergence sur ce point-là. Mais là où il n'y a pas de divergence entre elles, c'est qu'elles ne doutent pas un seul instant que le vieillissement soit un problème quantitatif, qui finalement s'explique par des composants matériels, voyez. Et donc, pour toutes ces théories, la durée ne joue pas un rôle actif. Et c'est ce que récuse Bergson. Il répond à toutes ces théories que la cause du vieillissement, c'est ligne 43, la cause du vieillissement doit être plus profonde. Et il ajoute, nous estimons qu'il y a continuité ininterrompue entre l'évolution de l'embryon et celle de l'organisme complet. Et c'est précisément la continuité du vivant. C'est précisément la continuité du vivant qui explique justement, qui implique l'irréversibilité du processus de vieillissement. Vous voyez, la clé de l'explication, c'est la continuité. C'est parce qu'il y a continuité du vivant comme continuité de la durée intérieure qu'il y a irréversibilité du processus. C'est la continuité, d'ailleurs, qui constitue le vivant, qui permet d'établir une analogie entre l'évolution d'un être vivant et puis la durée intérieure de notre conscience. Alors, loin de se réduire à une simple addition ou à une simple soustraction de matière, le vieillissement tient à une cause intérieure que l'on peut concevoir par analogie avec notre être conscient en termes de mémoire. Car au fond, de la même façon que notre mémoire conserve le passé dans le présent, à l'intérieur de notre conscience, et bien de la même manière, on peut peut-être dire qu'il y a une sorte de mémoire organique qui, dans le corps vivant, prolonge, conserve le passé, tout son passé. Vous voyez, ici, regardez bien, ligne 61-62, ce que dit Bergson, l'évolution de l'être vivant, comme celle de l'embryon, implique un enregistrement continuel de la durée, une persistance du passé dans le présent, et par conséquent, une apparence au moins de mémoire organique. Alors, il ne dit pas qu'il y a une mémoire organique, mais c'est comme s'il y avait une mémoire organique, par analogie, au fond, avec notre propre mémoire. Vous voyez l'idée ? Bon, c'est-à-dire que l'analogie lui permet, au fond, de préciser les choses. Alors, maintenant, si vous refusez l'idée que le vieillissement est un phénomène irréversible, qu'il est lié à la durée, vous niez votre condition d'être vivant. Et on ne trouve pas meilleure illustration de ce déni aujourd'hui. Personne ne connaissait pas. Dans l'idéologie transhumaniste. L'idéologie transhumaniste pour laquelle le vieillissement et la mort, ce sont des maladies qu'on pourra un jour parvenir à guérir, si on parvient à maîtriser suffisamment le matériel génétique qui explique le processus de vieillissement. Si on arrive à faire quelques petites manipulations génétiques qui vous évitent de vieillir et puis de mourir. C'est-à-dire, vous ne mourrez que d'un accident de la route. C'est tout. Mais sinon, votre propre corps, dans l'idéologie transhumaniste, va pouvoir indéfiniment durer, va pouvoir indéfiniment se conserver, parce qu'on aura, fait quelques petites mises au point qui permettront effectivement de tenir la route. Enfin, en tout cas, on pourra mourir très tard. Ça, c'est l'idéologie transhumaniste qui a beaucoup de succès. Il y a même un transhumaniste qui passe souvent à la télévision, là, qui est un docteur, je crois, Laurent Alexandre, je ne sais pas ça, on le voit partout, qui a écrit un livre qui est « Mort à la mort ». Le titre « Mort à la mort ». Je crois que c'est ça, le titre de son bouquin. Pas imbécile, pas idiot, mais redoutable. Et puis, ce que l'on va dire encore, c'est qu'on ne peut pas non plus, si on veut comprendre le vieillissement, on ne peut pas s'en tenir à des observations extérieures qui relèvent ces manifestations physiologiques. D'ailleurs, en général, quand on relève les manifestations physiologiques du vieillissement, on ne s'intéresse qu'aux vieux. Ah, il a vieilli. Ah, il a des cheveux blancs maintenant. Il a des rides. Bon. Ah, comme si le vieillissement, c'était une affaire de personnes âgées. Mais non, c'est un processus qui commence dès la naissance et même dès avant la naissance. Et parmi les exemples de Bergson, il prend l'exemple de la puberté. Alors, la puberté, c'est un phénomène de vieillissement qui se déroule quand on est assez jeune. Et la puberté apparaît comme un moment de crise où l'individu se vit en rupture avec son passé. Et bien pourtant, comme l'explique Bergson, regardez le texte numéro 3, ligne 54-56, ligne 54-56, alors, est-ce que je l'ai, oh là, je ne sais pas, 55, ah voilà, c'est ça, 54-56, ouais, si, 55, disons. Il est évident qu'un changement comme celui de la puberté se prépare à tout instant depuis la naissance et même avant la naissance, et que le vieillissement de l'être vivant jusqu'à cette crise consiste en partie au moins dans cette préparation graduelle. C'est pas parce que vous vivez des ruptures ou vous avez l'impression qu'il y a des changements radicaux qu'il n'y a pas de continuité. Ces changements n'apparaissent que sur fond de continuité, si vous voulez. Hein. Et si vous vous en tenez à une observation extérieure, eh bien, vous faites un peu comme le physicien, si vous voulez, qui, plutôt que de parler vraiment du mouvement, vous parle du trajet parcouru par un mobile dans un espace. Ben vous, c'est pareil. Quand vous parlez du vieillissement en disant, en prenant des repères comme ça, en vous fiant à des manifestations extérieures, ben vous distinguez des positions successives. Hein, d'une certaine manière, vous échouez à rendre compte de la continuité. En fait, la continuité, elle ne se voit pas. Elle ne se voit pas. Ce que vous ne voyez, ce ne sont que des états discontinus, qui en réalité ne sont pas réellement discontinus, hein, si vous voulez. Mais si vous vous en tenez à l'observation extérieure, vous ne voyez que du discontinu, que des états successifs. Donc, effectivement, si par contre vous rapportez l'évolution du vivant au modèle de la durée, si vous fiez à l'analogie entre la durée intérieure de la conscience et puis l'évolution du vivant, vous comprenez que, comme la durée, l'évolution d'un être vivant, eh bien, c'est quelque chose de continu. Et c'est cette continuité qui est l'essentiel. Alors, vous voyez qu'à chaque fois, c'est toujours la même chose, bon, c'est toujours la même idée, c'est toujours sur la question du temps que l'on bute. C'est toujours sur la question du temps que bute celui qui veut soumettre les corps vivants à l'analyse mathématique et qui s'imagine pouvoir maîtriser leur devenir en modifiant la position des éléments qui constituent le corps. Comme si les corps n'étaient au fond que des machines très, très complexes. La continuité du vivant implique l'irréversibilité de la durée et elle empêche qu'on puisse réduire les corps vivants à une approche mécaniste. Alors cette continuité s'étend au-delà du seul corps vivant. Le moment actuel d'un corps vivant ne prolonge pas seulement tout le passé de l'organisme, mais aussi l'hérédité, mais aussi son hérédité, et comme dit aussi Bergson, enfin l'ensemble d'une très longue histoire. C'est-à-dire au fond, un corps vivant ne se résume pas seulement à son histoire. Il n'est pas seulement son histoire, ça va au-delà. Il inscrit son existence dans une histoire beaucoup plus longue qu'est l'histoire de son espèce. C'est-à-dire qu'ici, après l'individualité, après le vieillissement, la troisième caractéristique d'un corps vivant, c'est son appartenance à l'évolution. Vous voyez, trois caractéristiques, hein, l'individualité, le vieillissement, l'appartenance à l'évolution. Et c'est de cette manière que, au fond, la continuité du vivant montre la légitimité de la notion de vie en général. C'est pour cette raison que vous allez pouvoir parler de la vie en général. Alors, au début, vous vous souvenez, on se demandait si cette notion avait une légitimité, si elle correspondait à une réalité. Eh bien, maintenant, on peut dire que, oui, la vie en général, c'est le courant de vie qui traverse tous les corps, qui se transmet de génération en génération, qui divise les espèces, etc. Vous avez d'ailleurs ici une définition dans le texte numéro 4 de ce que Bergson appelle la vie en général. Lignes 8 à 10. Voyez comment, ligne 8 à 10, c'est ça. Alors, là, on peut même commencer à la ligne 5. Mais alors, il ne faudra plus parler de la vie en général comme d'une abstraction ou comme d'une simple rubrique sous laquelle on inscrit tous les êtres vivants. À un certain moment, en certains points de l'espace, un courant bien visible a pris naissance. Ce courant de vie, traversant les corps qu'il a organisés tour à tour, passant de génération en génération, s'est divisé entre les espèces et éparpillé entre les individus, sans rien perdre de sa force, s'intensifiant plutôt à mesure qu'il avançait. Alors, la fin de la phrase, vous ne pourrez pas la comprendre. Laissez. Mais par contre, vous avez compris, on verra plus tard. Et par contre, on avait compris que, au fond, la vie en général, c'est le courant de vie. Hein, c'est tout simplement le courant de vie qui traverse les êtres vivants de génération en génération, qui les organise, qui se subdivise en espèces, etc., etc. C'est ça, la vie en général. Au fond, c'est l'évolution. C'est l'évolution. Et alors, ici, c'est par analogie avec la durée de la conscience qu'on peut parvenir à déterminer ce qu'il en est de la vie en général, ça vous avez compris, mais pas seulement. Ce sont aussi ce que Bergson appelle les preuves du transformisme qui vont valider cette idée. C'est-à-dire ici, Bergson va faire référence aux sciences de son temps pour montrer, au fond, que les unes et les autres convergent vers l'affirmation, au fond, d'une transformation des espèces, d'une évolution des espèces. Hein, c'est ça. Il y a les deux, si vous voulez. Il y a l'analogie qui permet de concevoir la vie en général. Et puis, il y a, au fond, ce que les sciences confirment de cette idée de vie en général. Et c'est ce qu'il appelle le transformisme. Transformisme, au fond, c'est l'idée d'une évolution des espèces. Alors, il s'appuie les théories scientifiques de l'évolution qui valident cette hypothèse du transformisme, elles sont quatre, il y a quatre sciences qui se recoupent, dont les conclusions se recoupent. Vous avez d'abord la taxonomie, c'est-à-dire que c'est la science qui établit les classifications naturelles des espèces. Les classifications naturelles des espèces qui est fondée sur les ressemblances, sur les ressemblances entre les êtres vivants. Et l'hérédité transmet ces ressemblances. Et comme l'explique très joliment Bergson, je ne vous ai pas cité le texte, mais je vous le cite, ici c'est page 23, je ne vais pas photocopier le texte, mais je vous le cite, c'est page 23. Sur le canevas que l'ancêtre transmet à ses descendants, et que ceux-ci possèdent en commun, chacun, c'est-à-dire chaque individu, met sa broderie originale. Un canevas que l'ancêtre transmet à ses descendants, puis après, vous avez des petites variations individuelles. Chacun met sa petite broderie originale. Bon, ensuite, il y a ce que l'on appelle l'embryogenèse comparée et l'anatomie comparée, qui, je vais à l'essentiel, qui semble montrer que les phases du développement de l'embryon récapitulent les phases de l'évolution. Alors, c'est une théorie très, très, très... qui a beaucoup de succès à la fin du XIXe siècle. C'est la théorie d'un Allemand qui s'appelle Ernst Haeckel, que Freud aussi prend très au sérieux. C'est l'idée, selon sa théorie, que, au fond, l'histoire, enfin, l'ontogénèse, comment dirais-je, reprend la phylogénèse. C'est-à-dire que le développement de l'embryon reprend toutes les phases qui ont été celles de l'évolution de l'espèce. Bon, de manière un peu ramassée, si vous voulez. Bon, mais ça, je ne rentre pas là-dedans. Et puis, enfin, la paléontologie. La paléontologie, qui se développe, hein, et qui paraît confirmer que les espèces sont effectivement sorties les unes des autres. Alors, vous voyez, les découvertes scientifiques, dans leur ensemble, valident l'hypothèse transformiste, c'est-à-dire l'idée d'une évolution du vivant. Alors, qu'est-ce qu'elles montrent surtout, ces théories ? Elles montrent qu'il y a un rapport de filiation et de succession entre les espèces qui sont issues les unes des autres. Mais cela ne suffit pas à Bergson. Lui, ce que veut faire Bergson, il veut élaborer une philosophie de la vie. Il veut montrer que la philosophie peut connaître quelque chose de la vie, sans nier la valeur des sciences, hein, sans discréditer les sciences, en reconnaissant même, leur travail. Mais elle montre que, de comprendre que les sciences ont forcément des limites du fait qu'elles sont des œuvres de l'intelligence. Et donc, pour élaborer, ce qu'il veut donc, c'est élaborer une philosophie de la vie pour comprendre, justement, le mouvement vital qui produit cette succession et cette transformation du vivant. C'est ça qu'il veut comprendre. Il veut comprendre ce mouvement évolutif qui engendre des formes nouvelles, des espèces nouvelles. Et c'est bien dans cela que consiste la vie en général. C'est ce courant de vie, hein, qui traverse les corps, hein, qui passe de génération en génération, qui se divise en espèces. Et c'est ça qu'il veut essayer de comprendre. Et c'est la raison pour laquelle il se réfère beaucoup aux travaux scientifiques d'un biologiste qui s'appelle August Weismann. C'est un Allemand, 1834-1914. Alors, qui est très important, qui a joué un rôle très important dans le développement, au fond, de la génétique. Ce Weismann soutient la thèse, il l'évoque, de la continuité du plasma germinatif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, hein, la thèse de la continuité du plasma germinatif pour expliquer la transmission génétique. Voilà ce que fait Weismann. Alors, en gros, hein, résumons. Weismann nie l'idée qui était souvent admise à l'époque dans le sillage de Lamarck, hein, philosophie zoologique, et même Darwin partageait un peu cette idée. L'idée était souvent admise à l'époque d'une transmission héréditaire des caractères acquis. Eh bien, Weismann rejette cette idée qui suppose, au fond, l'action du milieu extérieur sur le germe. Il rejette cette idée. Et pour Weismann, au contraire, ce sont les modifications internes progressives du plasma germinatif, de ce qu'il appelle le plasma germinatif, qui seuls peuvent rendre compte de la transmission de la vie et de ses formes, de l'invention de ses formes, de manière continue, d'un corps à l'autre. Le plasma, fond, pour le dire d'une manière moderne, le plasma germinatif désigne les ressources génétiques. Les ressources génétiques qui sont responsables de l'hérédité. Avant qu'on ne parle d'ADN, avant qu'on ne parle de gènes, etc. Et ce plasma germinatif se transmet dans les cellules sexuelles d'individu à individu, ce qu'il appelle le germen. Et ce germen, hein, ces cellules sexuelles ne sont aucunement influencées par les modifications acquises par le corps des individus, justement, qui les transmettent. Ce qu'il appelle le soma. Il distingue le germen du soma. Le germen, au fond, ce sont les cellules sexuelles qui se transmettent d'individu à individu, dont le corps est, d'une certaine manière, dépositaire. Et puis, le soma, c'est ce qui tient au corps, qui peut effectivement acquérir dans sa vie un certain nombre de dispositions, qui peut être modifié, mais ces modifications qui viennent de son rapport au monde extérieur, ne se transmettent pas. Hein ? Ce qui est transmis, c'est le germen. Alors, les travaux, il faut le savoir, les travaux de Weismann vont permettre de redécouvrir ceux de Gregor Mendel, qui est considéré comme le fondateur de la théorie d'hérédité. Donc, Weismann joue un rôle important. C'est un néo-darwinien, hein, si on peut dire. Alors, bon, mais tant pas plus. Bergson adopte largement donc, la vision que Weismann propose de la vie en général, tout en la réélaborant quelque peu du point de vue de la durée. C'est-à-dire, au lieu de considérer la continuité du plasma germinatif comme une sorte de chose permanente qui serait porteuse de la vie et de ses formes, Bergson y voit plutôt une sorte d'énergie, d'activité, qui exerce un acte de transmission, vous voyez. Il évite de parler en termes de choses. Hein. Il voit dans le plasma germinatif, dans la continuité du plasma germinatif, une sorte de continuité d'énergie, si vous voulez. Hein. Et c'est comme ça qu'il arrive à cette définition de la vie, qui se trouve page 27, qui se trouve page 27, mais qui se trouve dans le texte numéro 4. Texte numéro 4, ligne 15 à 18. Voilà, vous l'avez, elle est en caractère gras. Voilà la définition de la vie. Envisagée de ce point de vue, la vie apparaît comme un courant qui va d'un germe à un germe par l'intermédiaire d'un organisme développé. Tout se passe comme si l'organisme lui-même n'était qu'une excroissance, un bourgeon qui fait saillir le germe ancien, travaillant à se continuer en un germe nouveau. C'est-à-dire que le corps, vous voyez, c'est une excroissance, hein, le soma, c'est une excroissance dépositaire du germen qui transmet les cellules sexuelles, mais c'est pas le corps qui... au fond, c'est une sorte de réceptacle dans ce système-là, vous voyez. Et ce sont les cellules sexuelles qui sont le principe vital pour l'essentiel. Alors évidemment, notre intelligence s'insurge, encore une fois, contre cette notion de la vie. Hein, et pour, je le répète, pour l'intelligence, tout doit pouvoir s'expliquer par la composition, par l'arrangement d'éléments matériels qui sont eux-mêmes immuables. Hein, c'est-à-dire que le mécanisme, c'est sa doctrine naturelle. Hein, c'est une doctrine qui ne pense que la répétition, hein, bon, qui est déterministe. Bon, et je rappelle tout cela brièvement, et qui, évidemment, pour laquelle l'imprévisibilité est quelque chose, c'est un défaut de la connaissance, c'est tout. Il n'y a pas d'imprévisibilité des formes vivantes. Hein. Si on parle ainsi, c'est parce que on est simplement ignorant hein, de toutes les causes qui permettraient d'expliquer, effectivement... ces formes. Bon. Donc c'est faire violence à l'intelligence que de penser la vie comme une évolution créatrice de formes imprévisibles du vivant. Alors, j'en viens au dernier point, rapide. Mais oui, je vais être rapide. Il ne s'agit pas d'incriminer l'intelligence. L'intelligence, je rappelle, on l'avait déjà dit, elle est naturellement incapable de comprendre la vie. Parce qu'elle n'est tout simplement pas faite pour ça. Et ici, on se méprend sur sa nature en l'élevant à la dignité suprême d'une faculté de connaissance, capable de trancher de toute chose, et particulièrement de la nature de la vie. Et donc, si on veut comprendre le rôle et les limites de l'intelligence, il faut toujours la rapporter à son origine vitale. Et c'est ce que fait Bergson, page 29, donc dans le texte numéro 5, non, numéro 4, pardon, texte numéro 4, ligne 43-45, ligne 43-45, Bon, il rappelle simplement ça. Hein, je lis depuis le début du paragraphe. Mais contre cette idée de l'originalité et de l'imprévisibilité absolue des formes, des formes vivantes. Toute notre intelligence s'insurge, notre intelligence telle que l'évolution de la vie l'a modelée, n'oubliez pas que c'est un produit de l'évolution de la vie, a pour fonction essentielle d'éclairer notre conduite, de préparer notre action sur les choses, de prévoir, etc. etc. Donc, au fond, il faut toujours se rappeler que l'intelligence a une fonction pragmatique. Elle n'est pas originellement destinée à la connaissance. Elle n'est pas destinée à la connaissance de la réalité. Et c'est bien parce qu'elle a pour fonction de satisfaire des exigences vitales qu'elle engendre des illusions. Qu'elle engendre des illusions qui nous empêchent de comprendre la vie. Vous avez une sorte de paradoxe, si vous voulez, ici, qu'il faut bien énoncer. Ce qui nous permet de vivre, c'est l'intelligence. Elle nous permet une action efficace. Ce qui nous permet de vivre nous écarte de la compréhension de la vie. Vous voyez, la vie a produit l'intelligence, qui est au fond une faculté grâce à laquelle nous vivons. Hein. Mais ce faisant, vous voyez, en nous permettant de vivre, hein, en nous permettant d'avoir la conduite adaptée finalement à notre milieu pour vivre, eh bien l'intelligence nous détourne de la compréhension de la vie. Vous voyez, est-ce que vous comprenez ce paradoxe? C'est-à-dire qu'elle est, elle est pas faite, elle est faite pour l'action, elle est faite pour une action efficace, hein, en se donnant des repères, etc. Mais ce faisant, effectivement, elle engendre des illusions qui vont nous écarter de la compréhension de la vie. Et tout est là, si vous voulez, tout est là. C'est-à-dire que vous vous souvenez, quelles sont ces illusions? Comme l'intelligence a besoin de fixité, d'immobilité, d'identité, de répétition, eh bien, elle nous fait croire que la réalité est constituée par des éléments qui ne changent pas. Vous voyez? Elle a besoin de penser que le changement, ce n'est en fait que un déplacement de partie. Elle a besoin de penser les choses comme ça. Elle ne peut pas accepter la durée. Et la seule manière de vaincre les illusions de l'intelligence, c'est de se rappeler les origines vitales de l'intelligence et de montrer comment, au contact de la matière, par notre action, elle engendre une vision mécaniste de la réalité. Et c'est ce que fait Bergson. Alors là, malheureusement, j'ai arrêté la photocopie ici, mais je vais vous citer les passages importants. Et on reprendra ça la séance suivante, c'est très important. Originellement, dit Bergson, nous ne pensons que pour agir. Nous ne pensons que pour agir. C'est dans le moule de l'action que notre intelligence a été coulée. Qu'est-ce que c'est qu'agir ? Agir, c'est d'abord concevoir un projet, un plan, puis passer au détail du mécanisme qui réalisera ce projet. D'accord, il y a deux phases. Eh bien, cela n'est concevable que si nous appliquons la loi de causalité selon laquelle la même cause engendre le même effet. Et pour exprimer la rigoureuse nécessité de cette loi de causalité, qu'est-ce que dit Bergson ? Nous n'avons qu'à suivre la pente de notre esprit pour devenir mathématicien. Vous voyez, quand vous êtes paresseux, vous vous laissez aller, vous êtes mathématicien. Évidemment, cette mathématique, c'est une mathématique naturelle, c'est pas la mathématique élaborée au niveau. C'est une mathématique naturelle qui nous invite tout simplement à prendre des repères, à enchaîner les mêmes causes aux mêmes effets, à coordonner ainsi de manière rigoureuse nos actions et nos opérations en vue de réaliser un plan et d'exécuter un modèle. Et ainsi, personne ne peut dire, nous naissons artisans comme nous naissons géomètres. Et même, nous sommes géomètres comme nous sommes artisans. Derrière le géomètre, hein, celui qui se représente dans l'espace, la coordination des pièces d'un mécanisme, hein, c'est ça, hein, le géomètre. Et l'artisan a besoin de géométrie. Et bien, derrière le géomètre, il y a l'artisan qui cherche à reproduire le même modèle en s'appuyant sur des schémas bien connus. Et de l'artisan, on passe au géomètre, puis du géomètre, on passe ensuite à un niveau plus élaboré, au métaphysicien qui conçoit la nature comme une immense machine réglée par des lois mathématiques. Vous connaissez tous le thème voltairien du dieu horloger. Ben voilà, Dieu a créé, au fond, une immense machine. Vous voyez, l'univers est une immense machine réglée par des lois mathématiques. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on passe au niveau de la spéculation, vous voyez, eh bien, on généralise, hein, on étend hein, le mécanisme à l'univers tout entier. Donc, ainsi, il y a trois niveaux. D'abord au contact de la matière, donc l'artisan, puis au niveau de l'abstraction géométrique qui permet l'efficacité de l'action, c'est le géomètre, puis enfin au niveau de la spéculation, c'est-à-dire le niveau du métaphysicien qui prétend connaître la nature de l'univers, à tous ces niveaux, on retrouve la même négation de la durée, le même besoin de transformer le temps en espace, la même vision d'un temps mesurable. Vous voyez, en tant qu'artisan, dit Bergson, nous ne voulons que du même. En tant que géomètre, nous enchaînons le même au même. Nous repoussons l'imprévisible. À tous les niveaux, l'intelligence se détourne de la durée. Je vais arrêter là. J'ai encore des choses à dire, mais je vais arrêter là parce que, bon, et de toute façon, c'est pas grave parce que la prochaine fois. On abordera toutes ces conceptions que sont le mécanisme et la finalité qui sont présentes dans les doctrines scientifiques que va critiquer Bergson. Et comme ça, on s'acheminera vers ce qu'il entend être la véritable connaissance hein, du mouvement évolutif, connaissance philosophique pour lui, hein, et qui se servira de l'image de l'élan vital. Hein, pour essayer, c'est une image, hein, rien de plus, pour essayer d'approcher cette connaissance. Bon, mais vous voyez, il faut tout de même aller doucement. T'es obligé d'enchaîner, ça va pas vite. Hein. Désolé. J'espère que c'était clair. Pas trop compliqué. Alors, je fais vos questions. Relisez le texte à partir de là. Hein. Non, vraiment, c'est un texte qui se... Bon, bah, il n'est pas si facile que ça, mais il est assez plaisant à lire hein, quand on commence à comprendre. Voilà. À vous. Oui. Alors, parlez fort, hein, parce que...
Une précision, là. Donc, au début de l'écriture, Bergson disait un objet matériel ne vieillit pas.
Oui.
Alors, j'entends bien que ce qu'il réserve de faire vieillir aux organismes vivants.
Oui.
Mais j'ai du mal à comprendre si on prend le terme vieillir comme un processus irréversible de dégradation. Il y a des objets matériels qui subissent des processus irréversibles de dégradation, ne serait-ce que le sucre qu'ils font dans le verre d'eau, ou le morceau de verre qui rouille, ou le morceau de bois qui brûle, qui sont des processus qui ne sont pas
matériels. Oui. Alors, comment vous dire ? Il y a deux choses. Première réponse, mais là... Ces dégradations sont peut-être dues à des facteurs extérieurs. C'est-à-dire que quand Bergson parle de vieillissement, il s'agit d'un processus purement intérieur, interne. Tandis qu'effectivement, tous les phénomènes d'altération dont vous parlez, effectivement, sont dus ne serait-ce qu'à la présence d'un objet dans un certain climat humide. Enfin, vous voyez, il y a des facteurs extérieurs qui jouent. Mais en même temps, deuxièmement, niveau de ma réponse, de toute façon, vous avez forcément un peu raison. Enfin, je veux dire par là que, comme le montre ici aussi personne. Et, comment dirais-je, l'univers matériel n'est pas totalement étranger à la durée. On peut pas l'exclure, voyez. Mais bon, c'est pas le problème, c'est que c'est pas la durée ne se manifeste pas sous la forme du vieillissement. Pour lui, dans les choses matérielles, par contre. Vous voyez ? Alors, je ne sais pas si je vous réponds bien. Vous voyez ? Mais enfin, ce qui est vrai, c'est que les exemples que vous donnez n'excluent pas une explication mécaniste par des facteurs extérieurs, je ne sais pas, des facteurs chimiques, etc., donc qui ne tiennent pas à la composition interne de l'objet.
Dans le cas des êtres vivants, c'est la même chose. C'est les facteurs extérieurs aussi.
Oui. Parce que, pas seulement.
Pas seulement, mais là, j'ai du mal à saisir, parce que dans le cas du vieillissement des individus, ce sont les individus qui vieillissent.
Oui.
Mais pas le processus vital qui ne vieillit pas.
Processus.
Les individus vieillissent, mais il y a des générations qui naissent en permanence, et ça ne vieillit pas.
Alors, oui, mais il y a sauf qu'il y a un devenir, tout de même, des espèces. Les espèces disparaissent.
Oui, les espèces disparaissent, mais ça se crée en permanence.
Ah oui, ben, c'est ça la vie. À la limite, hein.
Les objets disparaissent, mais pas. C'est bien passé. Ça, c'est une sorte de chose qu'est la vie, comme vous ne vieillissez pas.
Mais. Comment dire le vieillissement, c'est le corps vivant, hein, c'est le corps vivant, effectivement. Mais oui, non, mais ça, c'est vrai que ça n'affecte la continuité, l'évolution, effectivement, et dépasse la question du vieillissement. Hein. L'appartenance d'un corps aux générations, c'est à l'évolution, ça va au-delà de la question de son propre vieillissement. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais simplement, l'idée de vieillissement montre qu'il y a quelque chose de spécifique au corps vivant qui tient à la durée. Et ça, bon, alors, je ne vais pas défendre Mordicus, vous voyez, et qui ne peut pas s'expliquer en termes mécaniques. Et entendu qu'une explication mécaniste consiste toujours à dire que c'est par un agencement de matière, même extrêmement subtil, qu'on va pouvoir effectivement modifier l'état d'un corps, éventuellement intervenir sur son devenir. Bon. Et voilà, ça c'est cette idée. Hein. Et derrière par exemple, le rêve transhumaniste, il y a une conception du corps, au fond, comme une machine. Hein, dont on peut intervenir sur ces éléments pour la remettre en état, pour éviter qu'elle se dérègle et pour qu'elle aille vers la maladie et la mort. Bon. Donc ça, effectivement, bon, maintenant, je ne sais pas quoi vous répondre d'autre. Hein. Oui.
Oui, vous parlez de personnes qui parlent d'apparence, au moins de mémoire organique.
Ouais.
Il ne parle pas de passé organique. Est-ce que éventuellement c'est volontaire ?
Ah, c'est la même chose.
Bah, pas tout à fait.
Oui,
le passé,
non, non,
c'est réel, la mémoire, c'est plus virtuel.
Mais pour Bergson, vous savez bien, la mémoire, c'est l'acte de liaison du passé avec le présent. C'est-à-dire que ça, c'est pas une faculté. C'est pas un magasin de souvenirs. Ça, effectivement, là-dessus, il s'oppose radicalement à l'idée d'une faculté qui conserve le passé comme si le passé disparaissait. Le passé est toujours présent. Ça, pour lui, c'est clair. Hein. Alors, la mémoire organique, au fond, je vous ai dit, il ne dit pas qu'il y a une mémoire organique. Une apparence de mémoire organique, par analogie. Hein, on est d'accord. Mais la mémoire organique, c'est le passé qui se conserve. C'est le passé qui se conserve, tout simplement, c'est que ça. Hein. Voilà, c'est que il n'y a pas de... Contrairement aux choses matérielles, effectivement, qui subissent immédiatement une cause, mais qui ne conservent rien. qui ne conserve rien, effectivement, du passé, même si elle soit altérée de l'extérieur. Enfin, c'est-à-dire, c'est difficile à expliquer, hein. C'est pas... Oui? Il y avait deux... Avant vous, il y avait... Oui? Je vais poser une question tout à l'heure. Ouais. Le Pierre, non? Non? Bon, alors, enfin.
Moi, je me demande, est-ce que Bergson, en 2022, écrirait les émissions créatrices avec les problèmes qu'on connaît actuellement d'énergie, de climat, est-ce qu'il aurait une vision de la continuité? Est-ce qu'on n'est pas à une période de rupture qui fait que personne n'écrirait plus ça?
Alors là, ouais, je ne sais pas vous dire. Hein. Non, je crois franchement que sa philosophie. Oui, mais la philosophie qu'il élabore n'est pas réductible à une conjoncture. Je veux dire par là qu'elle donne les moyens de penser même notre temps présent. Je veux dire, je crois pas qu'une philosophie soit réductible au moment où elle a été écrite. Ah oui, mais c'est ce que je suis en train. Je dis la même chose. Je dis la même chose. Je veux dire, bien sûr que dans une philosophie, vous avez des éléments qui sont, en quelque sorte, historiquement dépassés. C'est évident, bon, mais c'est pas ça l'essentiel, si vous voulez. Ben forcément, quand vous disiez Platon, vous savez bien qu'il y a des choses. Il ne vit pas dans le même monde, on est d'accord. Mais en même temps, il a une puissance d'analyse et de réflexion qui fait qu'on est toujours concerné par le propos qu'il tient. Bon, je dirais la même chose de Bergson. Alors, et ce qu'il y a, c'est que peut-être pour mieux, moi, je ne suis pas un connaisseur de Bergson, moi je le découvre un peu. Hein. Et d'ailleurs, le plaisir de Philopop, c'est pour moi de découvrir un peu les textes aussi, pas forcément faire ceux que j'ai déjà étudiés. Hein. Alors, je pense que le texte qui serait le plus approprié pour répondre à vos questions, c'est le dernier, les deux sources de la morale et de la religion. Où là, il aborde des problèmes moraux, politiques, la question de la démocratie, etc., etc. Voilà, ça, je pense que ce serait plutôt. En fait, il faudrait poursuivre. Dans 4 ans, je vous répondrai. Non, mais c'est vrai. Là, qu'est-ce que vous voulez dire que...
Je veux dire que l'évolution créatrice, c'est un mouvement qui ne s'arrêtera pas, qui
Oui.
s'arrêtera pas, qui dépassera.
Oui. Et qui invente. Et qui invente à chaque fois des formes
Voilà.
nouvelles.
Et là, quand même, avec 7 milliards de population, avec des crises,
Alors, là,
là,
par contre. Par contre, là, je peux vous répondre. Ce qu'il appelle l'élan vital, le mouvement créateur, ne signifie pas que l'espèce humaine va perdurer.
Ça peut continuer sans vous.
Hein?
Ça peut continuer sans vous.
Tout à fait. Personne n'admet ça. Tout à fait. Non, parce que là, vous êtes anthropocentriste. J'en connais quelques-uns parmi les coléoptères ou d'autres qui seraient assez ravis que nous disparaissions. Non, vous voyez ce que je veux dire? C'est que l'élan vital, c'est pas réductible à l'homme. Même si l'homme je dirais, une créature, enfin une créature, une production du vivant, c'est remarquable. Mais non, ça peut. Une espèce peut mourir. Je pense que. Je ne suis pas encore assez connaisseur de personne pour vous répondre de façon absolue, mais je pense qu'il le dit. Vous voyez?
C'est déjà arrivé ailleurs, d'ailleurs, enfin.
Oui. Bon, on sait bien que si on est évolutionniste, hein, on doit mesurer le fait qu'une espèce est éternelle. Hein. Ça, c'est. Alors, il y en a qui ont trouvé deux. Il y en a qui pensent à la solution de partir là-bas très loin, à Mars, puisque la Terre est foutue. Hein. Ou les autres qui pensent qu'ils vont pouvoir trouver l'élixir, enfin, façon de parler, qui leur permettra de rester, d'être immortels, d'échapper. Mais enfin, tout ça est assez difficile hein, à envisager. Oui.
Quand Bergson a écrit ce livre, là, au XIXe siècle, toute la communauté scientifique de Bergson vivait sous l'égide des lois physiques de Newton, universelles, comme il disait, et on a vraiment l'impression qu'il veut
alors,
ce mouvement, s'opposer à ce mouvement.
Non, attendez, là je... Oui, vous voulez dire que c'est des exemples datés.
Oui.
Alors, là, je... Oui, non, ben forcément, il parle de la science de son époque qui maîtrise très très bien, hein, remarquablement bien. Mais déjà, à son époque, il y a déjà une mise en cause du déterminisme classique. Et bon, je veux dire, il y a la théorie de Max Planck, qui commence à tout ça.
Oui, alors, parce qu'en fait, après Bergson et presque de son contemporain, Einstein.
Il a correspondu avec Einstein. Voilà, il y a eu une controverse entre lui et Einstein.
Voilà, parce que comme les physiciens se sont aperçus, je pense, sous la vive critique de Bergson, qu'ils allaient dans le mur en ne s'intéressant qu'au déterminisme, ils ont essayé d'élaborer d'autres théories physiques.
Oui.
À commencer par la théorie quantique.
Oui.
Qui est apparue la théorie quantique.
Ça.
Qui justement essaie de contourner ces difficultés que Bergson expose. Parce que dans la théorie quantique, qui s'adresse au quantum, c'est-à-dire au microscope, aux électrons, aux atomes, les lois universelles de Newton ne marchent plus.
Alors, je suis d'accord avec vous, mais il n'en demeure pas moins que c'est toujours à partir des exigences de l'intelligence que cette nouvelle physique est élaborée, à partir d'éléments, etc. Vous voyez, on reste tout de même si, bien sûr, le modèle newtonien est remis en cause, ça, on est d'accord, mais on a toujours une approche, bon, toujours plus fine, hein, plus remarquable, mais...
Justement, parce que dans la théorie quantique, il y a cette notion du temps qui est introduite, comme dans la théorie de la relativité d'Einstein.
Oui,
dans la théorie quantique, quand vous étudiez un électron, un atome, alors Einstein prend l'exemple, surtout Niels Bohr d'ailleurs, un peu après, prend l'exemple de la lumière, donc est un photon, est une particule, certes c'est une particule, mais c'est aussi une onde, c'est-à-dire que dans l'onde, oui. Vous verrez la notion du temps qui est introduite.
Oui, mais c'est toujours un temps mesurable.
Ah oui,
non mais on est d'accord. On a affaire à des modèles scientifiques qui se sont remis en cause, on est d'accord. Mais il y a toujours, mine de rien, même les nouveaux physiciens restent héritiers de cette conception de la rationalité qui commence à s'énoncer avec Galilée et Newton, malgré tout. On cherche une volonté de mathématisation de la nature. Hein, qui, alors évidemment...
C'était surtout Newton qui voulait mettre
sous l'équation. Oui, mais d'une certaine façon, à la limite, il a tracé la voie. Enfin, c'est cet idéal qui est toujours là, hein, tout de même. Même si, bien sûr, les choses sont toujours. Les sciences progressent par crise, hein, on est d'accord. Hein, c'est que tout le temps, on remet en cause les paradigmes. Mais on reste toujours dans cette tradition, tout de même, d'une physique qui part des éléments, qui part. Des relations entre les éléments qui montrent que ces relations sont difficilement déterminables, qu'il y a de l'imprévisible. Bon, enfin, ça c'est vrai que c'est compliqué, c'est plus compliqué. Mais bon, je ne suis pas sûr. Alors, moi, je ne m'aventure pas à dire que Bergson a complètement passé à côté. Je ne pense pas. Je pense que.
Non, mais il est novateur.
Ouais, je crois que. Oui, alors ce qu'il y a, c'est que. Oui, vous voulez dire.
Justement, j'ai pas bien compris lorsque vous disiez que Bergson disait que pour percevoir la durée,
oui.
Il ne fallait pas faire appel à l'intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ah, alors. C'est-à-dire que notre intelligence, elle a besoin de se constituer des repères fixes, immobiles. Elle ne peut pas penser la mobilité et le temps. Voilà. Par exemple, quand elle pense le mouvement, elle le pense en termes de trajectoire d'un mobile qui parcourt un espace. Elle spatialise le temps. Voilà. Ça, c'est la grande critique de Bergson commence là, si vous voulez. Et c'est toujours la même idée qu'il reprend.
Je comprends, mais je ne comprends pas. On fait appel à quoi
alors, on fait appel, c'est-à-dire que comme... je ne sais pas si vous étiez à la première séance, fait appel à l'expérience de la durée. C'est une expérience consciente. C'est la conscience seule qui peut parvenir éventuellement à cette connaissance. Mais alors évidemment, là pour l'instant, on est au balbutiement du texte. Hein. Je veux dire que c'est vrai que ça va se préciser au fur et à mesure. C'est-à-dire que toute la réflexion de Bergson, c'est quel est le mode de connaissance qui va nous permettre de saisir justement le mouvement, la durée, etc. etc. Enfin, c'est ce mouvement par lequel le réel se fait. Hein. C'est ça qui... et qui ne peut pas être l'intelligence. Et comment arriver en nous-mêmes à dépasser l'intelligence ? Ce qui ne veut pas dire que l'intelligence est nulle, hein, qu'elle n'a aucun intérêt, aucune valeur, mais elle n'est pas une faculté qui peut prétendre connaître le réel. Voilà. Il faut un autre type de connaissance qui va appeler l'intuition. Hein. Mais alors, l'intuition, attention, je dis, le problème, si je sors le mot comme ça, ça fait très subjectif et très un peu n'importe quoi, quoi. Et non, c'est pas, ça n'est pas une sorte de, comment... c'est pas une sorte de sentiment purement... Enfin, vous voyez, c'est pas une subjectivité vague hein, qui va permettre d'aborder, évidemment... Mais évidemment, pour l'instant, je peux pas vous dire. On est sur sa fin. Alors, l'intelligence, pas seulement le raisonnement, c'est l'intelligence, c'est d'abord, c'est une faculté, enfin, c'est une faculté engendrée par la vie qui nous permet de nous adapter et pour vivre, justement. Et l'intelligence, elle a besoin de fixité, de repères, elle a besoin, finalement, de répétition, elle a besoin, vous voyez, elle a besoin d'immobilité pour pouvoir agir. Elle pense le mouvement à partir de l'immobile. Par composition d'éléments immobiles, vous voyez, et c'est quelque chose d'utile, d'efficace, hein. Pour agir, on a besoin de ça. Et cette intelligence, qui au départ est engendrée par les nécessités de l'action, les nécessités de la vie, elle va effectivement ensuite, comment dirais-je, influencer notre conception de la science. Hein. Voilà. C'est ce qu'il dit là, Bergson, c'est que ça commence par l'artisan, ensuite c'est le géomètre, puis après c'est le métaphysicien qui envisage le monde comme une vaste mécanique. Vous voyez ? Donc, voilà, c'est l'intelligence, elle est utile, elle nous permet d'être efficace dans notre rapport aux choses, hein, pour... dans l'action, hein, pour satisfaire effectivement des exigences vitales, mais elle ne permet pas d'appréhender ce courant, hein, ce mouvement, cette mobilité qui constitue notre durée intérieure comme elle constitue le réel. Et ça, c'est cette idée-là. Mais évidemment, tout le problème avec Bergson, c'est que si on le dit de façon trop vague, vous voyez, ça peut paraître un peu fume. Il va arriver. Et en même temps, il n'élabore sans cesse. Il prétend jamais. Vous voyez, c'est toujours par approximation. Il procède toujours par approximation, par une approche. C'est-à-dire qu'en fait, c'est par une constante critique de l'intelligence qu'il parvient à essayer de saisir ce qu'il en est de la durée. Vous voyez, c'est pas une connaissance. La connaissance intuitive, c'est pas une connaissance à laquelle on puisse accéder facilement. Et donc il faut sans arrêt, comme une sorte de combat intérieur avec l'intelligence pour arriver à y accéder. Enfin, c'est un peu comme ça que, je pense, les choses se passent dans son œuvre. Mais il y a encore beaucoup de choses à dire. Ça va pas vite, hein. je sais bien. Mais en même temps, le fait de ne pas être trop rapide sur le début fait qu'après on comprendra mieux. Oui.
En 1907, donc, l'univers était immuable, c'est-à-dire qu'il avait toujours été celui qu'il était.
Et on pouvait rien ne se... Alors, quelle est la formule là, de c'est Lavoisier ? Rien ne se crée ? Enfin, tout se transforme.
L'univers n'avait pas d'histoire. On pressent que oui. Bergson va vers
oui.
L'idée que l'univers a une histoire, l'univers
tout à fait. Entier, absolument.
Et que la vie en sera l'expression la plus aboutie
tout
ou
à
la
fait.
Plus significative.
Tout à fait. Oui, l'univers n'est, n'est pas quelque chose de enfin, n'est pas quelque chose de déjà fait, oui, tout à fait. Le temps, il se fait,
ça,
c'est là-bas.
Ça a dérangé beaucoup Einstein. Justement, la contre
controverse pouvait peut-être...
Mais là, je ne suis pas assez connaisseur, et donc je ne connais pas. En fait, il faudrait lire Durée et simultanéité. Il y a un texte qui s'appelle Durée et simultanéité, où il y a une controverse avec Einstein, mais là, bon... je sais qu'ils ont correspondu. Je crois que si vous voulez, en lisant la Révolution créatrice, on lit une des quatre grandes œuvres de Bergson. Bon. C'est déjà pas mal. Voilà, je vous dis au 15. Finalement, vous avez eu du chauffage, ça a été.